n'a l'air de rien, ce petit mot, mais il est le pivot de notre époque. C'est le mot « chacun ». Chacun sa vérité, chacun sa culture, chacun sa communauté, chacun son genre, chacun sa classe, chacun sa minorité, chacun son histoire, chacun son territoire, chacun son profil sur les réseaux, chacun sa manière de consommer de la viande, un peu, beaucoup ou pas du tout. Cette première partie de siècle signe le règne de chacun et se réjouit de l'affirmation de nos différences, de nos situations et de nos aspirations particulières. Alors bien sûr, c'est formidable que nous puissions exister chacun à part entière parce que cela nous permet de contempler chacun notre liberté. Mais que nous reste-t-il de commun alors? Entre tous ces chacun que nous sommes devenus, qu'est-ce qui peut nous relier et tisser du vivre ensemble? Sur quoi faire reposer nos principes, nos valeurs et quelque chose comme un bien commun? Bref, quelle est la place que nous faisons à l'universel? Surtout un jour comme aujourd'hui, où c'est collectivement que nous devons nous mettre d'accord et agir pour affronter une large épidémie. On en parle ce matin avec le philosophe Francis Wolff, qui publie un passionnant plaidoyer pour l'universel. Et on en parle avec vous, chers auditeurs. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il est encore possible et nécessaire d'entretenir des valeurs universelles? Ou au contraire, pensez-vous qu'il faut s'en libérer? Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou nous envoyer des messages sur l'appli France Inter ou la page Facebook de l'émission. Et bonjour, Guillemette Audicino.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Je suis ravi de vous avoir à mes côtés, vous et votre esprit d'escalier donc, qui nous accompagneront tout au long de l'émission. Soyez les bienvenus à l'écoute de Grand Bien Vous Fasse, en direct ou en podcast. Où en est-on avec l'universel aujourd'hui? C'est le sujet de notre conversation ce matin.
France Inter. Grand bien vous fasse, Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Francis Wolff.
Bonjour.
Alors vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie à l'École normale supérieure à Paris, et vous avez publié en décembre dernier un livre important, Plaidoyer pour l'universel, aux éditions Fayard. C'est un peu le troisième et dernier épisode d'un travail que vous avez commencé il y a 10 ans, et dans lequel vous défendez la belle idée de l'humanisme contre tout ce qui vous semble le menacer aujourd'hui. Alors Francis Wolff, d'habitude ce sont les avocats qui plaident pour défendre un client lors d'un procès. Qu'est-ce qui vient faire l'éminent professeur de philosophie que vous êtes dans ce débat public? Est-ce que pour vous c'est une forme d'engagement? Et est-ce que c'est une des fonctions aujourd'hui de la philosophie que de s'engager dans ce débat?
Alors, engagement au sens large du terme, j'accepte le mot. Je crois qu'un philosophe est toujours plus ou moins engagé dans le combat de la raison contre les passions, dans le combat des lumières. Je crois que la philosophie ne vaudrait pas une heure de peine si elle n'avait pas pour but d'introduire le maximum de raison dans l'expérience que nous faisons du monde. Et quand on estime que le monde va plutôt du côté de la déraison et à l'opposé du chemin des lumières ou de l'universel, eh bien, il faut prendre la parole, mais je crois, en philosophe et sans vouloir donner de leçons.
Et donc c'est pour ça que vous prenez la parole dans ce livre, c'est pour défendre une certaine idée, alors vous l'avez dit, un engagement de la raison, mais une certaine idée, l'idée d'universel, dont vous dites vous-même au début de votre livre que c'est pas forcément une idée trop sexy, enfin vous employez pas le terme sexy, mais c'est comme ça que je le comprends, elle peut paraître un peu abstraite, un peu austère. Alors qu'est-ce que c'est que cet universel-là? Peut-être simplement un retour à ce qui fait de nous des humains et que le fait que nous partageons une humanité commune?
Oui, d'abord, je trouve que, en effet, l'idée de communauté, comme vous le disiez tout à l'heure, bien chacun s'enferme dans sa communauté, et dans sa communauté, ça peut être de nation, de race, de couleur, de sexe, d'orientation sexuelle, et chacun revendique une identité, mais nos identités sont multiples, nos identités sont plurielles, nos identités sont mouvantes, et moi, je ne veux pas me résoudre à me définir par un « en tant que homme, en tant que mâle, en tant que blanc, en tant que français, en tant que etc. etc. »
Donc si il y a en tant qu'humain.
Voilà, entre autres en tant qu'humain, mais aussi en tant que toutes les autres choses. C'est-à-dire que c'est la somme de tout cela. Et vous parliez à l'instant de ce qui nous arrive sous le biais de cette épidémie. Imaginez-vous que ça a été pratiquement les premiers mots de ce livre que j'ai pourtant écrit il y a quelques mois, enfin qui est paru il y a quelques mois, c'est que nous sommes confrontés en tant qu'humanité à des mots que nous savons communs à tous. Et je citais justement les épidémies, les crises économiques, le changement climatique et pourquoi pas les catastrophes nucléaires.
Je confirme, c'est la page 11 de votre livre.
C'est tout à fait au début. Nous sommes exposés aux mêmes risques planétaires et pourtant nous réagissons dans le chacun pour soi et en fermant nos frontières, en nous renfermant sur notre identité. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est à gauche comme à droite. La gauche a été, disait-on, porteuse de l'universel, alors que la droite s'enfermait, disait-on, dans les nations, les races. Je trouve que c'est pareil des deux côtés. Évidemment, à droite, on a les replis attendus,
nationalistes,
Trump, Bolsonaro, Modi en Inde, Brexit d'un côté, Orban de l'autre. Mais à gauche, je trouve que c'est de plus en plus la même chose. La gauche n'est plus porteuse, comme elle a pu l'être, des valeurs universelles, c'est-à-dire ne pas regarder de quelle race, de quelle religion on est, ni de quelle... Et on a le sentiment que l'universel, maintenant, est associé à gauche, par exemple, au patriarcat, à la blanchité, à l'Occident, à l'européocentrisme. Et quand on parle de raison, on a le sentiment, que c'est le droit du plus fort, alors que c'est, je crois, le contraire.
Et pour chacun de nous, ça peut poser des problèmes assez compliqués.
Bonsoir, non. Merci, mais non. Non, parce qu'en fait, je vais arrêter le métier, parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre. Une identité, une cause, quelque chose. Et moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle de 41 ans, consommatrice d'anxiolytique. C'est pas une identité, c'est un cercueil.
Blanche Gardin au festival de Montreux en 2019. Ce que dit Blanche Gardin ici avec humour, c'est aussi un petit peu ce que vous décrivez dans la première partie de votre livre comme ce qui menace aujourd'hui l'universel, cette idée d'un universel raisonnable. Parce que ce que dit Blanche Gardin, c'est que le plus important au fond aujourd'hui, c'est pas tellement ce qu'on dit, mais qui l'on est, d'où l'on parle. C'est la classe, le genre, l'origine, la préférence sexuelle qui vont nous identifier davantage qu'une appartenance commune. Et donc, c'est tout ce jeu d'identité ou de revendication particulière qui, pour vous, menace l'idée d'universel.
Oui. Cependant, il faut quand même distinguer deux choses. Bien entendu, l'universel, c'est un horizon. Il n'empêche qu'il y a des gens qui sont, qui s'estiment et qui sont des victimes. Et qui, parce qu'ils sont des victimes, qu'ils appartiennent à des minorités réelles, comme minorités sexuelles, ou minorités d'orientation, ou minorités de racisées, comme on dit aujourd'hui, ou des minorités fausses, comme les femmes, ont besoin de revendiquer leur particularité. Ce que j'indique, c'est que revendiquer une particularité en tant que victime ne doit pas faire oublier la finalité de la lutte qui, elle, ne peut être que l'universel.
Guillemette Odissino.
Oui, justement. Mais alors, vous avez commencé à répondre avant même que je vous pose la question. J'allais évidemment prononcer le mot minorité parce que le sketch de Blanche Gardin, il dit aussi exactement l'inverse de ce qu'elle dit en creux. C'est-à-dire, en ce chapelet d'identité ou de minorité dans sa plaisanterie, elle dit bien que les combats sont loin d'être terminés. Donc, évidemment que là, l'horizon et l'espoir est à l'universel, mais Comment on peut d'abord, est-ce qu'il ne faut pas d'abord résoudre, quand vous dites cette fausse minorité par exemple que sont les femmes, certes nous ne sommes pas moins que vous, mais nous sommes peut-être moins bien traités, donc comment on résout d'abord les problèmes justement d'identité ou de soumission ou de domination avant d'arriver jusqu'à ces... trouver le chaudron d'or au pied de l'arc-en-ciel.
Oui, vous avez tout à fait raison. On se bat toujours pour la libération ou pour l'émancipation de certains. Classe exploitée, peuple colonisé, femmes subalternisées, noirs, juifs, arabes, roms, contre un universalisme de façade. Car je tiens compte évidemment des fausses apologies de l'universel. Oui. L'universel a souvent servi de façade, que ce soit ou de prétexte à la colonisation, à l'évangélisation forcée, à l'imposition. Par exemple, encore, prenons la guerre d'Irak de 2003, on allait apporter nos valeurs universelles. Bon, la conquête de l'Algérie s'est faite au nom des valeurs universelles. Donc,
oui, c'est une cape de domination aussi. Hein.
Tout à fait. C'est un cache-sexe, disons-le d'une certaine manière. Pourtant, il faut tenir à la fois les deux côtés de l'argument. Lorsque les combats contre l'injustice faits à certains oublient qu'ils visent finalement l'égalité de tous, je trouve qu'ils trahissent leur propre cause. C'est simple. Les colonisés ont-ils combattu les colonisateurs pour les coloniser ou pour abolir le colonialisme ? Et je comprends très bien qu'il faille lutter contre le patriarcat, pas forcément en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Mais ça n'est pas pour imposer le matriarcat. Je pense que c'est pour imposer quelque chose d'universel, qui est l'égalité des hommes et des femmes.
Ça, rassurez-vous, je pense qu'on en est loin du matriarcat, tout de même.
Exactement. Et certains ethnologues ont montré qu'il n'y en avait pas, que ça ne pouvait pas exister. Mais ça, c'est une autre histoire.
Alors, du coup, Francis Wolff, comment vous expliquez ce besoin d'identité, ce besoin de revendication d'identité? Bien sûr, il y a des effets de domination, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi une réaction, en tout cas c'est une hypothèse que vous évoquez, une réaction à une forme de nouvelle grande proximité dans laquelle nous serions aujourd'hui, du fait de la mondialisation, du fait de la transformation numérique du monde, et puis avec cette conscience commune d'une même urgence écologique que vous rappeliez un instant, est-ce que c'est pas ça au fond qui explique aussi cette crise d'identité, ce besoin finalement de se retourner vers une identité plus accessible, ou est-ce que c'est pas seulement ça ?
Alors il y a évidemment de cela, lorsque on a le sentiment qu'il y a une mondialisation forcée qui écrase les différences culturelles, par exemple, il est clair que, par réaction, chacun revendique sa petite différence. Je pense que c'est une des raisons. Ça n'est pas la seule. Ça n'est pas la seule parce que je pense qu'il y a des raisons plus profondes au fait que l'idée d'humanité ne se porte pas très bien.
Ce que vous appelez une crise des idées morales.
Une crise des idées morales et même simplement de l'idée d'humanité. Par exemple, depuis le triomphe des neurosciences, on a le sentiment que l'idée d'humanité devient floue. On ne sait plus exactement quelle est la différence entre l'homme et l'animal. On a le sentiment que toutes les différences pendant très longtemps, ont permis de définir l'humanité, les propres de l'homme, comme on disait, sont devenus flous. On a le sentiment aussi qu'il n'y a plus rien qui définisse ce qui faisait l'essence commune de toutes les valeurs. On a aussi, par ailleurs, dans les crises morales, le sentiment qu'il y a une relativité des valeurs, que au fond, ce qui est, étant donné que maintenant les idées vont à la vitesse d'un tweet, on a le sentiment que chacun peut exprimer ses idées, ses passions, ses émotions de façon totalement immédiate, et qu'il n'y a plus rien qui vienne réguler ce flux incessant et relatif à chacun.
En tout cas, nous, on vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à venir participer à cette conversation. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez décrocher votre téléphone et appeler le 01 45 24 7000 ou tapoter sur vos claviers pour nous envoyer des messages sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Julia Macarez et Josepha Gourvenec ont préparé cette émission et elle est réalisée par Stéphanie Texier.
It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Et c'était Nat King Cole avec Love.
Il paraît que Dieu, il a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux.
Grand bien vous fasse.
Et puis il a même ajouté, il y en aura qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ça sera très dur.
Sur France Inter.
10h24 sur France Inter, on se demande ce matin comment repenser l'universel en compagnie du philosophe Francis Wolff et de Guillemette Audicino. Alors face à ce projet que vous avez de défendre l'humanisme, il y a des ennemis et donc des combats à mener qui constituent d'ailleurs beaucoup de nos débats actuels, de nos débats de société actuels, mais aussi certains, c'est simplement des malentendus à dissiper. En défendant par exemple, comme vous le faites, les valeurs universelles d'un humanisme renouvelé, eh bien, vous affrontez, par exemple, vous trouvez sur votre route les transhumanistes, ceux qui rêvent d'un homme augmenté, notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, à l'aide des nouvelles connaissances de la neuroscience. Francis
Wolff.
Oui,
bien entendu, les transhumanistes, c'est une façon qui se présente très souvent comme une manière, au fond, d'être un avenir de l'humanisme. Je crois que c'est plutôt, on va vers une perte de l'humanisme. C'est-à-dire que ce qui est humaniste dans le projet transhumaniste, c'est le projet d'apporter une médecine qui puisse être non seulement thérapeutique, mais qui puisse aider les aveugles à voir, les paralysés à marcher, etc. Et ça, nous sommes là encore dans le projet humaniste. Mais dès lors qu'on veut transformer l'humain à titre individuel, pour en faire quelque chose d'autre qu'humain, et sans aller jusqu'au cyborg, pour en faire, pourquoi pas, comme un dieu qui serait immortel, là je crois qu'on franchit des limites de l'humain. Est-ce qu'il y a un moyen de transformer le projet transhumaniste en projet humaniste? Je le crois. Si au lieu de viser le bien individuel de certains qui pourraient avoir accès avec quelques millions de dollars à leur propre immortalité, si l'on visait l'immortalité de l'humanité comme telle, avec une médecine qui ne s'occupe pas de quelques Californiens ou quelques habitants de Floride enrichis, mais qui s'occuperait de lutter contre... Alors, évidemment, on pense à l'épidémie qui nous submerge, mais il y en a qui tuent chaque année des centaines de milliers d'Africains. Eh bien, on pourrait avoir un projet transhumaniste à l'échelle de l'humanité qui redeviendrait un projet humaniste.
Petite précision, Francis Wolff, tout à l'heure, vous avez employé le mot race, hein, nos auditeurs nous le font remarquer, mais c'était évidemment pas pour réclamer, enfin, ou en tout cas dire que les races existent, etc. C'était une façon justement de dénoncer ce classement.
C'était une façon de dénoncer ce classement et s'inquiéter du fait que c'est parfois à gauche, si j'en crois ce qui se passe sur les campus américains, que cette notion devient revendiquée. Alors en France, on dit les racisés pour expliquer que ce n'est pas une revendication de certains à appartenir à une race, mais du fait qu'ils sont considérés par exemple par la police comme appartenant à une race. Mais ce qui est inquiétant, en effet, c'est lorsque cela devient une revendication qu'on dit en tant que. C'est par exemple ce qui se passe dans l'appropriation culturelle. Le fait que il est clair que chaque souffrance d'une communauté est singulière et doit être rappelée comme telle. Mais pourquoi les victimes auraient-elles seules le droit d'en porter le poids et la mémoire ? Car une injustice ne concerne pas seulement les victimes, elle concerne tout le monde, elle concerne la communauté morale tout entière, autrement dit l'humanité. S'il n'y avait pas un tiers lieux d'où elles peuvent être constatées, dénoncées, jugées, éventuellement réparées, il n'y a plus d'injustice à proprement parler, ni donc de justice, il n'y a que des dommages, des préjudices, des vengeances, et là, on sort de l'humanité.
Guillemette Odissino.
Oui, mais justement, je m'intéresse beaucoup à ce « en tant que ».
Oui.
Mais comme vous le dites très justement, mais même en essayant de dépasser à nouveau cette problématique majeure de la domination, du dominé, de la victime et du bourreau, mais tant que certaines minorités ou certaines classes ou seront dominées ou brutalisées en tant que, elles ne pourront que revendiquer ce « en tant que ». Comment voulez-vous, enfin, et elles ont forcément, elles se positionnent avec un ennemi en face d'elles, et même l'ennemi en face, est-ce que lui, il peut prendre en compte cette justice magnifique dont vous parlez, enfin, donc il y a forcément un moment de camp, c'est souvent des histoires de camp et de en tant que.
Alors, en un sens, vous avez raison. Il ne faut pas confondre le tactique et le stratégique, diraient certains. Je comprends très bien qu'il y ait des politiques, par exemple, de discrimination positive, ce qu'on a appelé aux États-Unis l'affirmative action, pour casser le cercle de la reproduction permanente des inégalités ou des injustices. Et quand on a créé en France les zones d'éducation prioritaire, c'était dans ce but. Est-ce que vous dites que les luttes se font toujours d'un camp contre un autre? Je vais vous citer, par exemple, ce que disait Frantz Fanon, qui pourtant est souvent revendiqué dans Peau noire, masque blanc. « Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Nelson Mandela, je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, aussi certainement que je ne suis pas libre si l'on me prive de ma liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. » Autrement dit, il y a évidemment des moments où il faut se sentir solidaire d'une communauté de victimes, mais en faisant appel à tout ce qui, chez ceux qui ne sont ni victimes ni bourreaux, parce que personnellement je ne me sens ni victime ni bourreau, du moins en tant que blablabla, eh bien, pour faire appel à ce qu'il y a, disons, d'universalisable dans nos émotions ou dans nos jugements.
autre ennemi que vous rencontrez sur ce chemin donc de la défense d'un humanisme universel et qui aussi traverse notre société et qui fait un débat qui traverse toute notre société, c'est quand vous affrontez ceux qu'on appelle les animalistes, ceux qui se soucient donc d'une prise en compte non seulement du bien-être animal, mais aussi peut-être d'une reconnaissance davantage des droits de la vie animale ou de la vie naturelle. Comment vous recueillez comment vous affrontez cet ennemi et comment est-ce que vous articulez là les principes de votre humanisme universel?
Alors, il y a beaucoup de confusion derrière cette idée ou derrière l'idée d'animalisme. Si je suis humaniste, par définition, je suis spéciste. C'est-à-dire que je reconnais que l'humanité est une communauté morale et que quels que soient les devoirs que j'ai vis-à-vis des animaux ou des autres animaux, comme on dit, ils ne sont pas comparables avec les devoirs et les droits absolus qui me lient à l'humanité entière.
Il n'y a pas d'égalité.
Il n'y a pas d'égalité entre les espèces, il n'y a pas d'égalité entre mon chien et moi, pas plus qu'il n'y a d'égalité entre mon chien et ses puces. Voyez ? Donc l'idée d'animal, pour moi, n'a pas grand sens. En revanche, il est clair que nous avons des devoirs vis-à-vis des animaux. Mais nous n'avons pas les mêmes devoirs vis-à-vis de tous les animaux. Vis-à-vis des animaux de compagnie, nous avons des devoirs parce que nous sommes liés à eux par des relations affectives. Ils me donnent leur affection, je leur offre la mienne, et si j'abandonne mon chien sur une aire d'autoroute, eh bien je romps le contrat moral que j'ai avec mon chien. Vis-à-vis des animaux dits de rente ou d'élevage, nous avons une sorte de contrat domestique. Nous les protégeons de leurs prédateurs, nous les protégeons des maladies, bref, de tout ce qui les menacerait dans la vie naturelle, mais nous devons leur assurer des conditions de vie correspondant aux exigences de leurs espèces. Et vis-à-vis de tous les animaux sauvages, nous avons des devoirs écologiques. Mais ça, ce sont des devoirs écologiques, c'est-à-dire respecter la biodiversité, les équilibres entre les espèces, lutter contre les espèces éventuellement nuisibles dans certains écosystèmes et défendre les espèces menacées. Vous voyez, ça fait trois types de devoirs. Mais vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tout être humain, j'ai des devoirs absolus qui sont des devoirs de réciprocité et d'égalité. Et ils ne sont pas comparables.
Guy Matodicino.
Oui, ce que je trouve quand même assez piquant, c'est quand vous parlez des animaux de compagnie, de ce devoir qu'on a envers eux, etc., et de ce pacte qu'on a noué avec eux. Mais en fait, on est seul à avoir noué un pacte avec eux. Moi, je ne sais pas si mon chat, il est OK pour vivre chez moi, quand même.
Non, hein. Si c'est un chat, il est...
Non, mais il m'a jamais signé, justement, un pacte en disant, c'est une réciprocité. Donc, là, où je peux comprendre les défenseurs de la cause animale, c'est que ce chat n'a pas choisi. La vache n'a pas choisi d'être dans un élevage et le renard s'en fout qu'on le protège ou pas éventuellement. Enfin, donc c'est effectivement là une domination claire et nette, mais c'est pas que vous.
Oui, vous avez raison. Cela dit. Je ne suis pas sûr que ce soit au centre de notre conversation ce matin. Mais il est clair que... les chats, c'est un peu plus compliqué, mais pour ça, j'ai parlé des chiens. Parce que les chiens, voilà, ils nous font la fête quand on rentre chez nous, etc. Donc, il y a même dans l'idée de domestication quelque chose qui ne relève pas de la domination. Et ça, c'est ce que tous les anthropologues peuvent montrer. Il y a quelque chose qui font que certaines espèces ont pu être domestiquées et on a pu créer donc des espèces, certains diraient des variétés, qui sont dépendantes et donc qui ne pourraient pas vivre en allant marronner dans la nature. Et la plupart des animaux qui vivent sous la domination, comme on dit, de l'homme, ne pourraient pas vivre tout seuls. De cette relation se déduisent en effet un certain nombre de devoirs que nous avons vis-à-vis d'eux. Mais ces deux devoirs, vous avez raison, que nous nous imposons en tant qu'humains.
Je voudrais qu'on revienne aux humains, justement.
Revenons-y.
Et qu'on revienne à ce qui s'est passé le 28 février dernier lors de la cérémonie des Césars et qui a fait beaucoup, beaucoup parler, discuter sur les réseaux. On écoute Aïssa Maïga.
On est une famille, hein, on se dit tout, non? Ouais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inclusion, c'est comme ça qu'on dit maintenant, l'inclusion, elle va pas se faire sans vous. Vous tous qui n'êtes pas forcément impactés par les questions liées à l'invisibilité ou aux stéréotypes liés à la couleur de la peau. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça va pas se faire sans vous. Voilà. Donc, quand vous allez voir des équipes de tournage, des équipes techniques, des castings monochromes, quand vous êtes dans les instances de décision, je sais qu'il y a des gens qui prennent des décisions ici, quand vous êtes dans les lieux où on décide où vont les financements, pensez inclusion. Pensez inclusion. Parce que nous, on n'est pas assez nombreux et on n'a pas toutes les clés. Et surtout, ce qui se joue dans le cinéma, ça ne concerne pas que notre milieu hyper privilégié, ça concerne toute la société. Donc, mes chers camarades de l'Académie des Césars, faisons une maison, plutôt qu'une vitrine, une maison qui soit fière d'inclure toutes les différences. Fière pour que les jeunes qui nous regardent soient eux-mêmes fiers de la recevoir en héritage. Bienvenue dans le futur.
Extrait donc de la cérémonie des Césars, donc du 28 février dernier. Alors, ce futur inclusif qui est décrit par Aïssa Maïga et qu'elle appelle de ses vœux, est-ce que c'est une version possible de l'humanisme universel que vous appelez vous aussi de vos vœux, ou est-ce que ça va être compliqué avec ce vocabulaire-là et avec ces idées-là? Est-ce que inclure, c'est universaliser?
Alors, ce discours a été reçu de deux façons différentes et je dirais même antagoniques. C'est très difficile d'en parler sans rentrer dans un des deux côtés l'audition de ce discours. D'un côté, certains ont été scandalisés par le fait que l'on se mettait à compter les Noirs et par conséquent que c'était une négation du républicanisme à la française. Et par conséquent, c'était une négation de tout notre passé par rapport à une tradition, elle, plus américaine, dans laquelle, évidemment, on classe les gens en fonction, on s'inscrit dans telle ou telle race, on se déclare de telle ou telle race. D'autres y ont vu, au contraire, le désir que ces minorités dites visibles accèdent à des fonctions, à des statuts dont ils se sentent exclus. Et par opposition à exclus, eh bien, on parle d'inclusion. C'est précisément le problème de savoir de quel côté on se tourne quand on parle d'inclusion. Est-ce du côté universaliste ou du côté particulariste?
Oui, parce qu'il y a quand même ce vocabulaire aussi donc de la famille et de la maison commune.
Tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, les deux façons, et j'ai entendu les deux types de réactions, et je vous dis qu'il y avait, je comprends les deux types de réactions, parce que certains ont dit, oui, pourquoi ne se mettrait-on pas à compter les Juifs, par exemple, qui n'est pas une minorité visible, mais qui est aussi une minorité qui est discriminée. Pas de la même façon, car les minorités, chaque minorité ou type de victime est discriminée d'une autre façon. C'est ce qui rend difficile cette notion.
Guillemette.
Là, quand même, soyons un petit peu cash dans le cinéma français. S'il est question de discrimination, et on parle de maison où tout le monde pourrait vivre en rigolant et à égalité, la porte est très étroite
pour entrer dans cette
maison. Certaines couleurs de peau pour entrer dans cette maison, tout de même. Là, bon. Là, c'est mon expérience, disons, dans le cinéma qui parle, mais que ce soit dans les castings, que ce soit dans... Enfin, il y a même des associations, comme 1000 visages, qui se sont créées pour pouvoir aider des comédiens venus de la diversité, pour pouvoir accéder au tournage, accéder aux films, accéder à des postes de techniciens également, etc. Et même à des formations dans les écoles. Donc, la porte est quand même toute petite, donc... Quelle que soit la manière dont le discours a été reçu, il s'avère que là, d'où elle part, justement, hein, en tant que Aïssa Maïga a juste 100% raison. La manière de dire, peut-être, on a provoqué un débat, Mais pour ce qui est des faits, elle a exprimé exactement le fait que pour le moment, pour la diversité, c'est pas une maison, c'est une petite cabane de jardin.
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est évidemment.
Mais si le cinéma est censé être une vitrine aussi, puisqu'elle parle de maison, mais le cinéma français est forcément une vitrine de sa société. Faudrait que ça bouge un peu. La société est peut-être même plus en avance que son cinéma, d'ailleurs, que sa vitrine.
Oui, c'est à voir. Il y a une xénophobie dans la société aussi. C'est évident. Alors, bien entendu, je ne mets pas du tout en doute la sincérité du combat qu'elle mène. Je me suis placé uniquement du point de vue de la réception. Et du point de vue de la réception, il y a eu en effet les deux types de réception. Bien entendu, et je crois qu'il y a une ambiguïté dans la notion même d'inclusion. Pour répondre à la question de Thibault. Inclure, c'est évidemment un autre sens, c'est le contraire d'exclure, c'est évidemment que tout le monde participe, mais inclure, ça signifie aussi que ça pourrait signifier eh bien qu'on va procéder communauté par communauté. Et là, je trouve que on ouvre quelque chose comme une boîte de Pandore. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de dangereux dans cette idée. Enfin,
inclure, ça veut juste aussi dire que jusque-là, on n'y était pas.
Voilà, qu'on était exclu.
On peut espérer que ce soit juste ça, le problème.
Allez, on poursuit la conversation dans quelques minutes. Francis Wolff, et vous nous direz à quoi ressemble cet humanisme que vous proposez de refonder. N'hésitez pas à vous joindre à cette conversation en nous appelant au 01 45 24 7000 ou en nous envoyant des messages sur l'appli France Inter et la page Facebook de l'émission. Interprété par Gorillaz et Fatoumata Diawara.
France Inter, grand bien vous fasse, Thibaut de Saint-Maurice.
10h46 sur France Inter et on essaie ce matin de dessiner les contours de valeurs communes en compagnie du philosophe Francis Wolff et de Guillemette Audicino. Alors Francis Wolff, il y a un dernier ennemi ou en tout cas un dernier obstacle à surmonter sur ce chemin de l'universel que vous affrontez aussi vigoureusement au début de Plaidoyer pour l'universel, donc le livre que vous avez publié en décembre, c'est le relativisme. Ce relativisme qu'on rencontre souvent dans nos conversations courantes, hein, nos conversation ordinaire, ce relativisme qui dit que chacun sa vérité, que toutes les opinions se valent, voire même qu'il n'y a plus de vérité, et voire même peut-être que la vérité est toujours plus compliquée que ce qu'on voudrait nous faire croire et qu'il y a peut-être des complots, enfin tout ça qui se cache derrière. Francis Wolff.
Alors là encore, il faut être modéré. Le relativisme culturel a d'incontestables vertus libératrices. Contre l'arrogance des dominants, contre l'ethnocentrisme satisfait, contre l'impérialisme conquérant, qui a été souvent occidental, donc l'idée que nous ne sommes pas les détenteurs de la vérité ni des valeurs absolues, a d'incontestables vertus. Mais il a l'inconvénient d'aboutir à ce qu'on pourrait appeler un nihilisme moral. Après tout, chacun son truc.
Voilà, plus rien ne se... Enfin, tout
voilà.
Se vaut.
L'esclavage, le travail des enfants, la mutilation des fillettes ou leur mariage à 6 ans, n'est-ce pas le truc de certains ou certaines cultures? Et puis, on dira même au second degré, l'universel, c'est le truc, c'est un truc, mais c'est le truc de l'Occident, par exemple. Alors, je ne crois nullement que l'universel soit un truc, et encore moins un truc occidental. Il suffit de reconnaître que selon les époques, et parfois même dans le même moment, ce sont les cultures les plus diverses qui sont porteuses de cette idée. Et de la même façon que ça peut être les cultures les plus diverses qui sont porteuses de l'idée de barbarie. Prenons un exemple, l'Andalousie du Xe siècle, sous les Omeyyades, culture arabo-musulmane, ils cohabitaient les cultures juives, musulmanes et chrétiennes. Et elle était sans doute plus civilisée que sous les rois catholiques après la Reconquête, quand les Juifs et les Arabes furent chassés d'Espagne en 1492, l'année même où Colomb découvrait l'Amérique pour le malheur des peuples qui s'y trouvaient. Donc, où se trouve l'universel? Eh bien, il se trouve ici ou là. Je dis d'une seule formule, il y a des Antigones partout. Dans toute culture, il y a des voix, il suffit de les écouter, qui sont porteuses de l'universel.
Alors vous êtes une de ces voix porteuses de l'universel.
Nous sommes tous porteurs de l'universel.
En tout cas, oui, justement, c'est ce que vous annoncez, c'est ce que vous dites dans votre troisième et dernière partie de votre livre. Puisque là, vous allez présenter cet humanisme universel que vous défendez. Et le tour de force que vous réalisez, c'est de montrer que cet universel, nous en sommes chacun porteur. Oui. Pourquoi ? Parce que nous sommes chacun porteur d'une raison qui nous permet d'articuler des connaissances, et c'est là le rôle que vous attribuez à la connaissance scientifique, et puis d'une raison qui est capable aussi de produire des justifications morales de nos actions, en tout cas de se référer à des principes ou à des valeurs, et c'est là que vous identifiez une sorte d'éthique, d'éthique universelle qui pourrait constituer ce fondement. Quels sont les contours de cet humanisme que vous décrivez?
Alors, il est vrai que nous sommes un peu démunis au XXIe siècle parce que pendant longtemps, on a pu se dire, nous sommes tous fils et filles du même Dieu. Eh bien, ce Dieu en Occident, c'est souvent éclipsé. Lorsqu'il est invoqué, c'est souvent pour dire « c'est mon Dieu et pas le tien ». Donc, il ne semble plus être la source de l'universel. Donc, il faut se tourner vers l'être humain lui-même pour trouver l'universel. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça que je m'efforce de faire dans ce plaidoyer. Et en effet, vous avez raison, j'y trouve deux débouchés. D'un côté, la science. Mais alors, la science, ça n'est pas telle ou telle science ou tel résultat scientifique. Je dis la science, qu'est-ce que c'est? Au fond, c'est le monde vu de nulle part. C'est-à-dire, c'est la tentative pour comprendre le monde d'aucun point de vue particulier. Et l'éthique, je dis, c'est le contraire d'une certaine manière. Mais c'est aussi une valeur universelle. L'éthique, c'est le monde vu de toutes parts. Et il est assez facile, au fond, de dire quel est ce chemin vers l'universel. Nous en sommes tous porteurs et il suffit de remarquer que Une valeur ne peut être considérée comme universelle que si elle pourrait être acceptée par tous les êtres humains qui en délibéreraient librement, indépendamment, ben justement, de leur race, de leur religion, de leur statut social, de leur sexe, de leurs conditions de naissance. Eh bien, si nous imaginons, vous, moi, que nous pourrions être, voilà, en train de délibérer et de nous demander qu'est-ce que nous allons reconnaître pour le monde dans lequel nous allons vivre, qu'est-ce que nous pourrons reconnaître comme normes, comme règles, comme valeurs qui vont, eh bien, ces normes, ces règles, ces valeurs, c'est cela l'universel. Et nous, nécessairement, nous arriverions à la conclusion que, indépendamment de tout ce qui nous sépare et que nous ne connaîtrions pas dans cette position imaginaire, eh bien, nous adopterions la règle des deux règles, égalité et réciprocité.
Guillemette, vous sautillez sur votre chaise.
Ah oui, non, mais je rêve de ce dialogue miraculeux parce que cette espèce de grande assemblée universelle où on va tous mettre en commun les valeurs que l'on partage et comprendre éventuellement nos différences et parce qu'il y a aussi ce que ça réclame, c'est une empathie absolue aussi.
Non.
C'est, ah bah si, il faut comprendre. Non. Il faut quand même comprendre les différences de l'autre avant d'accepter nos points communs, non?
Alors, Francis Wolff. L'idée que je défends, c'est comment allons-nous trouver ce qui est universel? Je ne dis pas qu'il y aura demain ou jamais une assemblée mondiale, non, mais... bien évidemment. Je dis, mettons-nous, raisonnons chacun à notre niveau et demandons-nous ce qu'est l'universel. C'était la question qui m'était posée. Et je réponds, l'universel, c'est si je fais abstraction. Si j'imagine que je suis en train de délibérer, de raisonner, simplement avec ma raison et pas avec mon empathie. L'inconvénient de l'empathie, vous voyez, c'est que nul n'a d'empathie universelle. C'est ça le problème. Je n'ai pas de sympathie universelle et vous non plus, parce qu'il y a des gens que forcément vous n'aurez pas beaucoup en empathie.
Mais il y qui en a décide qui disent... de la raison universelle alors?
Attendez, je finis sur l'empathie. Vous comprenez bien qu'il y a des gens qui disent on n'a d'empathie que pour ses semblables. Oui, mais on a, c'est au fond un argument raciste. On a d'empathie que pour ses semblables. Et ceux qui sont un peu moins semblables, j'ai moins d'empathie. Donc l'empathie, elle est une voie sans issue. En revanche, raisonnons et faisons abstraction de tout ce qui nous sépare. Et à quoi aboutit-on? On aboutit à l'idée d'une délibération. Regardez, prenons un exemple très simple, ce qui se passe en ce moment dans la Convention citoyenne pour le climat. On va voir ce qui en va en sortir. Eh bien, à force de délibérer ensemble, à force, ce sont des gens qui viennent de tous les horizons. Ils ont à délibérer sur un horizon commun qui n'est pas simplement, qui ne les concerne pas eux-mêmes, pour lesquels ils n'ont pas de sympathie particulière, qui est la planète, le climat. Eh bien, progressivement, ils vont apprendre à se déprendre d'eux-mêmes, de leurs différences et de leurs empathies et sympathies particulières.
Alors, vous avez employé le terme de délibération. C'est essentiel parce que dans votre travail, il y a aussi donc tout ce rapport à l'homme qui parle. Oui. Il y a un acte fondamental de langage qui est l'acte du discours politique. On l'a entendu hier et on peut aussi l'entendre à la toute fin de la série Les Sauvages, diffusée sur Canal+, par le président, le personnage du président Hider Chaouche, joué par Roche Dizem.
Nous doutons parce que nos sociétés n'ont plus la rassurante homogénéité ethnique des temps jadis. Nous sommes de religions différentes, nos sexualités sont différentes et un nombre croissant d'entre nous vient d'ailleurs. Alors oui, nous doutons et c'est normal. Nous doutons parce que nous voyons bien que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Que nous ne pouvons pas davantage vivre simplement côte à côte, ni les uns sans les autres. Oui, nous sommes fiers. Oui, nous avons honte. Et c'est ce qui fait de nous des femmes et des hommes libres. Nul n'est innocent. Nul n'est pur. Le mal est là, tapis en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables du pire. Ni ange ni bête, nous sommes les deux à tour de rôle. Les plus civilisés des hommes les plus parfaits sauvages.
Les toutes dernières minutes donc du dernier épisode de la série Les Sauvages, hein, de Rebecca Zlotowski et de Sabri Louatin.
Excellente série.
Excellente série.
Francis Wolff, président.
Roche Dizem, président, exactement. C'est ça, là, Francis Wolff, la fonction du discours politique, c'est d'articuler par le langage des situations différentes et des valeurs universelles.
La fonction du politique, c'est de créer du « nous ». Et la fonction du philosophe, c'est de se dire qu'au-delà de tous les « nous » particuliers, il y a un autre « nous » qui est le « nous » universel.
Merci beaucoup Francis Wolff pour cette conversation. Autour donc de votre dernier livre, « Plaidoyer pour l'universel », c'est publié aux éditions Fayard. On en recommande chaudement la lecture. Merci beaucoup Guillemette d'être venu laisser traîner votre esprit d'escalier, monter et descendre.
C'était passionnant.
Au gré de cette conversation. J'ai été très heureux de passer cette semaine avec vous, chers auditeurs, et lundi, nous aurons tous le plaisir de retrouver Ali Rebehi avec une émission consacrée aux maux de ventre. Ali attend d'ores et déjà vos questions et témoignages sur l'appli France Inter ou sur la page Facebook de l'émission. À la technique ce matin, c'était Pauline Laverdure et Elisabeth Collet. À suivre, la bande originale.